de suite, Raphaël, c'est la solution du jour trouvée par Fanny Rascle.
Dans la solution aujourd'hui, une idée pour tous les parents qui rêvent d'avoir...
Supercalifragilisticexpialidocious.
Eh oui, Mary Poppins à la maison. En clair, une garde d'enfants qui soit en même temps un temps d'éveil, d'éveil ludique si possible. C'est le créneau choisi, Fanny, par Kidly dans La France Bouge.
Oui, Kidly, c'est la solution si vous avez des enfants à faire garder à la sortie de l'école et que vous avez envie qu'ils en profitent pour apprendre à jouer du piano, par exemple, ou pour découvrir l'anglais avec une personne que vous choisissez en fonction de ses centres d'intérêt, de ses passions. Bonjour, Nassim Nafti.
Bonjour, et merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous, merci à vous. Merci. Donc vous avez co-créé Kidly en juillet 2018, mais l'idée, elle vous vient d'une expérience très personnelle. Quand vous étiez petit, quand vous avez rencontré Sarah, vous voulez bien nous raconter ?
Exact. Bon, déjà pour recontextualiser un petit peu le lancement de Kidly, ça partait déjà d'un constat où autour de moi, j'avais de plus en plus d'amis qui avaient des enfants et qui étaient tous confrontés à la même problématique. C'était de trouver une personne qui, au-delà de garder leur enfant, allait vraiment participer à son éveil. Et donc, à ce moment-là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, j'avais beaucoup de chance, et je ne le réalisais pas jusque-là, d'avoir eu une babysitter qui, elle, a su contribuer justement à mon éveil, en m'initiant à des langues, mais aussi en éveillant en moi cet esprit d'analyse et de curiosité. Donc,
alors, quelle langue, par exemple ?
Alors, l'anglais, c'est elle qui m'a mis les bases. Donc ensuite, j'ai pu perfectionner à travers mes voyages, etc. Mais c'est elle qui a su éveiller en moi la curiosité d'aller découvrir cette langue. En fait, ça passe par plein de méthodes très ludiques pour justement que l'enfant s'imprègne du sujet et qu'il en redemande, en fait.
Comment vous sélectionnez vos babysitters ? Ils ont lequel profil ? Et vous demandez des recommandations, des références ? Parce que là, on parle d'éveil quasiment, d'éducation, d'apprentissage. Quelles sont les références que vous
Totalement. En fait, déjà, ça commence par notre sourcing qu'on fait directement au niveau des universités et des écoles. Donc, notre communauté est constituée d'étudiants. À titre d'exemple, on est en partenariat avec le BDE de Sciences Po, de Dauphine ou même de Sorbonne, pour n'en citer que cela. Et en fait, à partir de là, ça nous donne accès à une communauté qui a de base une certaine pédagogie, qui a un certain level. Et à partir de là, nous, on procède à une sélection à travers notre parcours de sélection des profils pour retenir vraiment les personnes qui ont une appétence pour accompagner un enfant au-delà des compétences que la personne peut avoir.
Et vous leur proposez une formation, une sorte de programme à suivre ?
Totalement,
comment ça fonctionne ?
Totalement. Alors ça commence au départ, dès qu'on les met en mission ou qu'ils démarrent un accompagnement d'une famille. En fait, on les forme avec notre partenaire qui est la Croix-Rouge au geste de premier secours. Parce que pour nous, c'est vraiment la brique indispensable à mettre de base. Et ensuite, en fait, on crée un programme qui est inspiré, en fait, on travaille avec notre partenaire qui est PandaCraft, qui produit des box ludiques à destination des enfants de 3 à 12 ans, où chaque mois est thématisé, et donc c'est une aventure. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme nos babysitters à cette PandaCraft, et ensuite, elles peuvent animer tout le mois sur le thème de cette PandaCraft selon les formations qu'on leur a procurées.
Vous parlez de l'idée d'éveil ludique, mais le terme il est un petit peu vague. Concrètement, mes enfants, si je les mets chez Kidly, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre ?
Alors, en fait, chaque mois sera un nouveau thème qui sera basé justement sur la PandaCraft. Typiquement, à titre d'exemple, ce mois-ci, c'était l'Égypte antique, où les familles qu'on accompagne ont fait une immersion totale dans ce thème-là.
Notre coach, que dit-il, Guillaume Carou ?
Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, que c'est vrai qu'on est sur un marché très concurrentiel,
oui.
De la garde périscolaire. Ce qui m'intéresse, c'est le business model. J'ai vu que finalement, ça coûtait pas cher du tout aux familles. J'étais même très, très surpris du faible coût, du fait des aides, etc., pour en dire deux mots.
On est 20 à 30% moins cher, c'est ça.
Et qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres acteurs du marché qu'on connaît bien, qu'on a déjà eu ici sur la garde périscolaire ? Qu'est-ce qui vous différencie au-delà de
Alors, déjà de un, enfin sur l'aspect d'accompagnement, on se différencie de nos concurrents dans le sens où on ne fait pas que de la mise en relation, on propose de l'accompagnement. C'est-à-dire que les familles qui nous rejoignent entrent dans une aventure au début de l'année qu'on va suivre tout au long de l'année jusqu'au mois de juillet. Donc c'est vraiment de l'accompagnement au quotidien à travers notre programme ludique. Et en termes de modèle, en fait, on travaille avec une communauté d'étudiants qui sont micro-entrepreneurs. Donc nous, de notre côté, la grande différence par rapport à certains acteurs, c'est qu'on réduit énormément nos marges. On permet aux micro-entrepreneurs, nos babysitters micro-entrepreneurs, de bénéficier de revenus élevés, tout en réduisant totalement nos marges.
Vous avez digitalisé, en fait, votre secteur d'activité.
Exactement.
On est quand même sur le créneau des gardes régulières, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais vous avez l'ambition d'élargir votre activité, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Totalement. En fait, là, on est justement en discussion avec des fonds d'investissement pour réaliser une levée de fonds, pour aller encore plus loin dans notre concept. Et ça part aussi par la sortie d'une application mobile pour la rentrée prochaine, où là, en fait, il sera possible de proposer de la garde ponctuelle avec des profils inspirants et sur des thématiques. Typiquement, enfin, sur, je parlais de l'Égypte antique, vous pourriez faire découvrir cette aventure-là à votre enfant pour juste 4 heures le week-end, par exemple.
Kidly, pour l'instant, c'est à Paris ou dans d'autres villes ?
Alors, aujourd'hui, on est en Île-de-France, donc c'est toute la région parisienne, et on est en train justement de s'étendre pour la rentrée prochaine au niveau de Nantes, Bordeaux et Lyon.
Merci beaucoup, Nassine Nafti, d'être venu nous présenter Kidly. C'est la solution originale aujourd'hui sur Europe 1 pour faire garder vos enfants.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, le salon Vinexpo s'achève aujourd'hui à Paris et c'est l'occasion de regarder quelles innovations sont au service du consommateur. Dossier du jour, évidemment, juste après votre journal. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Vous le savez peut-être, le salon Vinexpo s'achève à Paris ce soir dans un contexte un peu particulier pour les vins et spiritueux. Très bonne année 2019, année 2020 qui s'annonce un peu plus compliquée. Et comme la France est le grand pays du vin, on a eu envie d'aller voir quelles innovations étaient en train de révolutionner le secteur. Et évidemment, vous nous connaissez. On a trouvé bonjour Arthur Tutin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Troc Wine. Vous avez mis au point un site qui est exclusivement dédié à l'échange de bouteilles. Racontez-moi comment est-ce que vous avez eu en 2015 cette idée.
Oui, bah en fait, on voulait offrir avec mon ami et associé Florestan un autre canal que celui de la chasse. C'est-à-dire qu'on était amateurs de vin et on s'est rendu compte que les Châteaubriand, les Pétrus, ce n'était pas pour nous parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Et en fait, on a mis en place cette plateforme pour, si vous voulez, avoir la possibilité de constituer sa cave sans dépenser un centime et obtenir tous ces grands crus qui jusqu'ici n'étaient pas à notre portée.
Alors comment ça marche justement ce système d'échange ?
Bah, c'est très simple, vous vous inscrivez, vous mettez votre cave en ligne, ou du moins les bouteilles que vous souhaitez échanger, et vous faites une proposition d'échange à d'autres troqueurs. Et il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de limite dans les échanges, ça peut être une bouteille contre 100 si c'est décidé par le troqueur A et le troqueur B.
Vous êtes jeune, hein, vous avez 28 ans, oui. Vous avez toujours voulu être entrepreneur, d'ailleurs ça n'est pas votre seul business, ni votre premier.
Oui, tout à fait, c'est ça exactement. Ça fait 10 ans maintenant que je monte des entreprises qui sont en fait à certaines différentes échelles, on va dire, et la première c'était une boîte d'import-export de miel rare, donc dans l'épicerie fine. Après, je suis passé au prêt-à-porter, il y a eu le vin, il y a aussi la Wine Tech, qui est aujourd'hui une association très intéressante dont on pourra parler tout à l'heure.
Bien sûr.
Et il y a aussi un magazine qui s'appelle Regain, journal de campagne, sur la ruralité et le développement durable.
Mais le vin, c'est une passion.
Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est peut-être la plateforme qui marche le mieux, ou du moins celle qui m'a élevé en tant qu'entrepreneur. Parce que j'ai beaucoup appris déjà sur ma propre passion qui était le vin et aussi sur le numérique.
Alors dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour la créer cette plateforme ? Comment est-ce que vous avez pensé le modèle ?
On voulait que ce soit très très simple, on n'avait pas de modèle d'affaires derrière, donc il n'y avait aucune volonté de faire de l'argent. On voulait simplement que les amateurs de vin puissent se retrouver, que ce soit des néophytes ou que ce soit des experts, ou même des particuliers ou des professionnels qui puissent échanger leurs bouteilles librement à travers la France.
Vous avez référencé, vous, des amateurs de vin. Comment est-ce que vous les avez trouvés ?
Non, pas du tout.
Où ils sont venus vers vous ?
Non, ils sont venus vers nous. Ça s'est fait petit à petit. Au début, on avait ce qu'on appelle une landing page. On a proposé ce concept-là. On était les seuls dans le monde à le faire jusqu'ici. Donc du coup, les gens se sont inscrits petit à petit. Et quand on a ouvert la plateforme, on avait déjà 500 membres. Donc 500 membres, ça fait déjà plusieurs milliers de bouteilles, selon les caves. Et donc, beaucoup plus de références. Et il y a un jeu qui s'installe, parce que le troc, c'est aussi un jeu.
Guillaume Caron, notre coach.
Je ne regrette pas d'être venu, mais encore aujourd'hui, j'en prends encore plein la tête, plein les yeux. Les auditeurs en prennent plein les oreilles.
On rappelle que c'est à consommer avec modération. Hein.
toujours.
Encore un beau parcours, quelqu'un qui a entrepris à 18 ans. Je n'ai pas d'action dans son entreprise. Et donc, voilà, on a une brochette d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui innovent à tous les instants. C'est quoi les prochains business ? Là, on l'a vu, vous avez investi dans le miel, dans la presse, dans le vin. On plateformise tout ça, donc c'est intéressant pour les auditeurs qui ne savent pas trop quoi faire demain. Il faut savoir qu'on peut tout réinventer demain, tous les pans de l'économie, tous les secteurs d'activité et notamment la ruralité, on vient d'en parler, dans les territoires, recréer de l'emploi avec la technologie, pas la peine d'être ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tout ça ?
Ah oui, bien sûr. Bah, si on prend le principe de la WineTech, hein, donc, on a vraiment monté une association qui a monté une stratégie filière donc, pour la transition digitale des vieux métiers du vin, ou du moins tous les vignerons, les châteaux, les cavistes, enfin tous les vieux métiers du vin qu'on connaît, qui sont relativement traditionnels, il y a des solutions, et ces solutions-là, elles ne sont pas uniquement qu'à Paris, hein, ça c'est une utopie, c'est partout en France, et aujourd'hui c'est 300 emplois quand même la WineTech.
Avec l'infléchissement du marché, on vient d'entendre 300 millions de moins, c'est du délire. C'est quoi les idées derrière ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrebalancer ces mauvais chiffres de...
Bah justement, bah là, c'est des baisses, si vous voulez, qui sont colossales, mais parce que les chiffres, à la base, sont colossaux aussi.
Qu'est-ce que vous proposez en termes d'innovation pour...
Si vous voulez, ça va de la vigne au verre, hein, on dit souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a des robots, si vous voulez, qui passent entre les vignes, qui vont sonder le sol pour voir voilà, la pureté du sol, tout ce qui est argilo-calcaire, etc. Et ça va aussi sur des aérateurs, voilà, des aérateurs de vin pour oui, pouvoir
tous les pas perdus.
On va en parler exactement. Hein, des aérateurs, justement. Alors, vous avez quand même beaucoup évolué entre le démarrage et aujourd'hui. Oui. C'est allé très vite. Par exemple, vous vous êtes tourné aussi vers les grands amateurs de vin français. Vous dites, aujourd'hui, on a carrément la clé des caves.
C'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte que notre communauté s'élargissait. Et petit à petit, on voyait des amateurs qu'on pouvait pointer comme collectionneurs. C'est-à-dire que quand vous commencez à échanger 3-4 Pétrus ou de la Romane Conti, on sait que derrière, il y a une cave exceptionnelle qui se cache. Et c'est là qu'on a commencé à démarcher en fait, notre communauté pour dire bon, qu'est-ce que vous avez ? Quels sont les trésors que vous avez dans vos caves ? Et on leur propose aussi une cotation de leur cave, donc une expertise supplémentaire s'ils souhaitent la vendre un jour.
Et là, vous touchez une commission pour le
Exactement,
coup.
Tout simplement.
Pour le reste, c'est gratuit. Quand on échange, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argent qui circule. Hein. On se retrouve dans un bar, dans un restaurant qui est partenaire et qui accepte justement de servir de point de rencontre.
Exactement, c'est ça. La seule et unique monnaie sur le vin, sur Trois Coins, pardon, c'est le vin. Donc oui, il y a 250 lieux de rencontre à travers la France qui sont partenaires et qui vous accueillent, ne serait-ce que pour voir l'authenticité de la bouteille, savoir si c'était bien celle qui était sur la photo, voir voilà, le niveau du vin dans la bouteille. Et à ce moment-là, l'échange se passe.
Et quelle est la plus belle bouteille que vous ayez réussi à échanger comme ça, que vous avez vu passer ?
Il y avait un IKEM de 1871 dont on n'a pas pu vraiment, on a eu beaucoup de mal à l'identifier, savoir si elle était véritable ou pas. Et elle a très vite été retirée. Mais bon, il y a aussi un cognac Napoléon.
Elle a été retirée, c'est-à-dire elle n'a pas été...
Elle n'a pas été validée. On
l'a
modérée, c'est comme ça, exactement.
On n'avait pas la possibilité d'authentifier.
Exactement.
En un an et demi, vous êtes passé de 100 000 euros à 5 millions d'euros de volume d'affaires, c'est ça ?
Oui, alors 5 millions, c'est ce qu'on propose à la vente. Par contre, oui, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10. Voilà, on est passé de 100 000 à 1 million d'euros.
Et il y a beaucoup de projets, hein, je crois, parce que vous avez envie d'organiser des événements. Je crois que vous avez en tête un premier TEDx sur le futur vin.
Oui, tout à fait. Donc, c'est totalement en partenariat avec la WineTech.
Bien sûr.
On n'a pas de date encore. Donc, c'est en primeur, on va dire. L'info est en primeur pour Europe 1.
Qu'est-ce que ça veut dire un TEDx sur le futur vin ? Qu'est-ce que vous imaginez ?
Ce qu'il faut imaginer, c'est que le vin, c'est un peu son statut, c'est une trinité. C'est-à-dire que c'est un bien de consommation, c'est un bien d'investissement et c'est aussi un patrimoine culturel. Donc, si vous voulez, c'est une boisson très complexe. C'est pour ça qu'on la boit différemment que la bière, etc.
Fanny, on parlait de la WineTech, justement, on le voit, les startups du vin sont en train de s'organiser. Hein.
Oui, WineTech, c'est un très bon exemple. 35 startups qui sont en train de chercher des façons de renouveler le genre, vous le disiez. Ces startups ont l'ambition de lever 20 millions d'euros pour continuer à se développer, trouver de nouvelles idées, accompagner de nouveaux investisseurs. Et le président de la WineTech, c'est Laurent David, qui est le propriétaire d'un château Grand Cru Saint-Émilion, mais qui était dans une autre vie, le directeur d'Apple Europe. Donc, on est là aussi sur de très bons rails.
Oui, et puis on voit qu'effectivement, les chemins se croisent entre l'innovation et le vin. Et puis du côté des circuits courts, je crois que Fanny, vous avez trouvé aussi des choses. Le vin s'y met aussi.
Oui, exactement. Donc, il y a l'idée de l'échange, mais on est aussi de plus en plus sur des formats circuits courts. Il y a aussi des startups qui essayent d'innover sur ce secteur. Je pense par exemple à Les Grappes, qui référence plus de 1000 vignerons récoltants qui vendent en ligne sans intermédiaire, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Je pense aussi à Twill, qui vous permet, si vous avez eu un coup de cœur pour un vin au restaurant, par exemple, de prendre en photo l'étiquette et de commander directement au producteur, au prix propriété, là aussi, pour essayer de mieux connaître ce qu'on achète.
Guillaume Carreau, notre coach.
Bon, ça donne plein d'idées, mais c'est vrai que moi, je pense beaucoup aussi, ça me fait penser au business de l'art un peu. C'est vrai que qui n'est pas encore accessible à un grand public.
Ça commence.
Et au même titre qu'on peut démocratiser l'accès effectivement au vin et aux bonnes bouteilles et donner envie peut-être de collectionner du vin, on voit qu'il y a plein d'autres applications possibles pour les auditeurs. Il y a 1000 choses à créer, à inventer pour créer de l'emploi dans ce pays.
Ouais, ce sont des placements intéressants aujourd'hui. On est, nous, Français, attachés à la pierre. On peut l'être aussi au vin.
Oui, exactement. Alors, c'est plus qu'une valeur refuge. Si vous regardez sur les 30 dernières années, vous prenez le Windex en comparaison avec le CAC 40. Avec le CAC 40 chute en fait depuis 30 ans. Et le Windex, bah, pas du tout, c'est tout l'inverse, quoi. C'est une courbe qui est tout à fait montante.
On reste ensemble et on continue à parler vin et innovation aujourd'hui.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et vous en parliez justement. Comment être sûr de l'authenticité du vin que vous allez déboucher? Une étiquette peut peut-être bien vous aider. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin. Et pour cette fin de Vinexpo, on s'intéresse avec nos invités du jour au vin et à ses innovations. Alors si vous en connaissez, vous aussi, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Vous êtes peut-être à table en ce moment et peut-être sur le point de déboucher une bonne bouteille et vous aimeriez en savoir plus, tiens, par exemple, sur son histoire, être aussi sûr que l'étiquette vous dit bien ce qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Bonjour Jean-Jacques Bonnet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Imprimerie Centre Étiquette et vous avez lancé une appli ICE 2.0 qui nous permet à nous, consommateurs, en fait, de vérifier tout simplement l'authenticité du vin qu'on boit. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de faire parler les étiquettes.
C'est exactement ça. Faire parler les étiquettes, c'est l'idée que j'ai eue. Mon premier métier, c'est d'imprimer des étiquettes, c'est de les concevoir. Et au fil des années, le design change, on épure, on essaye de centraliser la lisibilité sur l'appellation, sur le nom du vigneron. Et puis, toutes les mentions légales, on les met sur une contre-étiquette et on s'aperçoit que de plus en plus, il y a de mentions, de plus en plus de choses à marquer et de moins en moins de place pour expliquer ce qu'est le vin. L'idée, c'était, en faisant parler les étiquettes, que le consommateur puisse savoir comment, par qui, où ce vin est fait.
Donc, vous avez mis de l'information à l'intérieur de l'étiquette.
C'est bien ça. En fait, dans l'impression, il y a des micro-messages qui sont lus par le téléphone. Et le téléphone reconnaît ces micro-messages. Et ça permet de visualiser une vidéo, un message sur l'étiquette, sur la bouteille.
Alors, vous avez amené une bouteille, vous avez votre téléphone. Vous nous montrez comment ça se passe.
Et
moi,
montre.
Je vais essayer de décrire pendant ce temps, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Europe1.fr. Donc, on prend l'application. On va présenter le téléphone tout simplement devant l'étiquette et on va scanner.
Voilà, donc en fait, je scanne l'étiquette.
Oui.
Et on va voir à la place de l'étiquette, comme je viens de le faire à l'instant, une vidéo.
Une vidéo qui va, voilà. Qui va se lancer automatiquement sur...
Sur... Je suis en 4G parce que j'avais coupé le réseau sur le... Voilà.
Voilà, alors là, la vidéo démarre.
Donc là, la vidéo démarre.
Et là, on est dans le...
Donc, on est dans la réalité virtuelle. Chez le viticulteur. Là, on est dans ses vignes. Donc, le viticulteur se promène dans les vignes. On va voir la mise en bouteille. On va voir les terroirs. On va voir les vendanges à la main. On va voir tout ce qui nous permet de dire, bon, ben voilà, c'est du vin fait chez nous. C'est du vin avec du raisin. Parce que c'est pas forcément évident
des fois.
Voilà. On voit les cuves, on voit les fûts. Voilà. Donc on est en plein cœur du vignoble et chez le vigneron.
Et c'est ça qui nous permet à la fois d'avoir l'histoire.
C'est ça.
Et aussi d'authentifier la bouteille.
Alors on authentifie au moins le travail du vigneron. Si maintenant on veut être sûr que c'est bien la bonne étiquette, parce qu'il y a des contrefaçons où on se dit oh ben c'est bien, c'est du Sancerre, c'est bien un tel, pas de souci. Sauf que à l'intérieur, ou l'étiquette, ce n'est pas celle-là. Donc il y a des marqueurs qui se voient la nuit, ce qui nous permet aussi de ne pas pouvoir la recopier. Il y a plein de marqueurs qui se voient la nuit, le téléphone va les reconnaître et va nous mettre un message dessus comme
ça
quoi
va,
il y a un label.
Ça va être fluorescent.
C'est ça, il y a un label d'authenticité.
Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle bouteille.
On peut le faire sur les étiquettes qu'on a imprimées et que le vigneron a décidé de communiquer avec cette application.
Donc c'est quoi ? C'est un système infrarouge, c'est ça ?
Ce sont des encres luminescentes.
D'accord.
Pour pouvoir le message. Donc là,
et ça, n'importe qui peut le faire ?
N'importe qui.
C'est bluffant, non, Guillaume Quérault ?
On n'arrête pas le progrès, hein, comme on dit. Effectivement, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de technologies autour d'un produit qui est quand même un produit de consommation courante, surtout en France. Ça fait penser un peu, moi, aux hologrammes sur les billets, avec et demain peut-être à des choses encore plus disruptives que ça. Là, il y a une vidéo. Demain, ça peut être. C'est quoi les prochaines innovations si on veut aller plus loin que ça ?
Il y a pas de limite en fait. Donc on peut tout montrer avec la réalité augmentée. Donc là, on est dans la vidéo, mais on peut être dans le message analytique. On peut très bien se dire le message d'authenticité. Si c'est pas la bonne bouteille, par exemple, c'est bien de savoir que c'est la bonne. Si c'est pas la bonne, ça peut renvoyer un message directement aux fraudes, par exemple, qui vont appeler le vigneron en disant attention, dans tel pays, à tel endroit. Il y a une bouteille, ce n'est pas la vôtre.
Et le marché en face, il y a un marché. C'est-à-dire que vous étiez au début, vous, sur des étiquettes papier, vous étiez imprimeur.
Je suis imprimeur.
Donc ça qui est génial. Et là, il y a un marché, le marché répond bien. Vous avez pas mal de clients. Et...
Alors, il y a une demande, effectivement. Alors, on parlait de l'export, où ça ne marche pas cette année, malheureusement. Mais bon, l'actualité fait que. Mais il y a des pays qui sont friands de ça. Je vois, par exemple, la Vigneron qui est ici, a fait une réalité augmentée et de la sécurité sur du rosé pour le Canada. Le Canada, elle l'a montré à la télé, ils ont été conquis. Ils ont trouvé que c'était innovant et avant-gardiste.
Ça veut dire que ça devient finalement un argument de vente supplémentaire
pour le
viticulteur.
Complètement. On met ça en Asie, ils adorent ça.
Moyen-Orient aussi, je pense.
Voilà, ils sont tous scotchés avec leur téléphone.
Alors justement, Fanny, l'étiquette, ça a l'air de rien, mais c'est important parce que c'est la base de tout. On a tout un tas de renseignements sur l'étiquette.
Oui, il faut faire très attention. Alors voilà, deux, trois petites idées des mentions à vraiment surveiller. La mention négociant, par exemple, ça veut dire que l'embouteilleur a acheté les raisins ou le vin à un autre propriétaire. Lorsque vous avez un cépage qui est indiqué, ça signifie que le vin est obligatoirement élaboré avec 85% de ce cépage, donc plutôt gage de bonne qualité. On ne peut pas utiliser les mots château ou clos uniquement si c'est un vin avec une AOP, une appellation d'origine contrôlée. Donc là aussi, il faut faire attention. Et puis, vous pouvez par exemple apprendre aussi le degré d'alcool, une donnée également intéressante à regarder, même si on sait évidemment qu'avec le réchauffement climatique dans les années à venir, on va sans doute les voir augmenter d'année en année.
Il y a aussi un effort de pédagogie qui est fait autour du vin.
Oui, on ne boit plus juste pour boire, on boit pour découvrir, pour apprendre, on veut en savoir plus. C'est ce que vous nous montrez avec vos vidéos. Il y a plusieurs autres entreprises qui incarnent cette idée. Je pense par exemple au site Winelist qui permet de réserver en direct des activités œnotouristiques comme des visites de châteaux ou des dégustations à la propriété. Alors eux, ils ont réussi à lever 500 000 euros pour se le développer encore et puis partir à la conquête de l'Europe. Je pense dans un autre genre à Dans ma bouteille, la première plateforme au monde qui liste toutes les données nutritionnelles sur les composés et puis les additifs présents dans une bouteille de vin, dans l'idée de toujours collecter plus d'infos.
On reste ensemble et on continue à parler vin et innovation française sur Europe 1.
Il est 13h26.
Europe 1.
Alors, on a la bouteille. On est sûr de son authenticité. Il faut évidemment maintenant la boire. Et pour ça, il faut d'abord l'aérer grâce à Vinitem. A tout de suite.
Comme tous les jours, on vous retrouve, Raphaël Duchemin, avec La France Bouge. Et on parle aujourd'hui d'une spécialité bien connue de chez nous, le vin. Alors, quelles sont les innovations françaises qui existent pour ce produit ? Eh bien, réponse tout de suite avec nos invités ce mercredi. Et puis vous, également un auditeur, on vous attend en direct au 39-21, 50 centimes la minute.
Oui, toujours avec modération, bien sûr. Mais les connaisseurs le savent, les grands vins doivent être bu dans de bonnes conditions. Et certains demandent, la plupart d'ailleurs, à être aérés avant de pouvoir livrer finalement tous leurs secrets, tous leurs arômes. Bonjour Christine Garcia.
Bonjour. Raphaël.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Vinitem. Et alors, vous avez mis au point un aérateur de vin 100% français, je le précise. Oui. Vous avez fait beaucoup de choses hein, avant de vous lancer dans cette aventure qui est aussi une passion. Comment est-ce que vous êtes venue à l'œnologie ? Pourquoi ?
Alors,
qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, j'ai toujours été une épicurienne à la base. Et c'est vrai que quand on m'avait invitée la première fois au restaurant, j'avais 19 ans. Et je trouvais que le vin était meilleur en fin de plat chaud qu'au début. Et je me suis dit, là, il faudra inventer quelque chose. Puis bon, après les péripéties de la vie ont fait que je ne m'y étais pas attachée. arrivé Noël 2014, j'ai eu le même déclic. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je me lance dedans. Donc, effectivement, j'ai fait des recherches scientifiques et œnologiques de façon à pouvoir après pouvoir inventer justement cet aérateur.
Alors, cet aérateur, il est particulier parce que quand on pense aérateur, on se dit, bon, on va carafer le vin, on va... Non, là, c'est un peu différent. Vous avez... un aérateur qui se monte en plusieurs pièces. Il y a trois pièces, c'est ça, différentes?
Oui, en fait, là, c'est le socle, mais autrement, vous avez une amphore. Alors, ça reflète un petit peu le côté, la partie historique où, justement, le vin était conservé et transporté dans des amphores. D'ailleurs, vinitem veut dire aussi en latin offrir à boire du vin à quelqu'un. Et en fait, j'ai voulu le faire en deux parties, puisque le plot hélicoïdal qui est monté dessus, c'était pour justement qu'il n'y ait pas de dépôt. Donc là, comme ça, ça passe au lave-vaisselle et donc ça permet justement d'une meilleure
donc
hygiène.
Donc dans l'amphore, on ajoute ce petit, vous dites plot, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est un plot hélicoïdal. Voilà,
d'accord.
C'est vraiment le...
Qu'on va venir poser sur une autre sur partie
sur, non, le verre, sur le verre directement. Ou la carafe directement. Et puis ça évite justement d'attendre une heure de carafage.
Ça réduit le temps de carafage.
Voilà, moi je suis pressée, j'aime bien le boire en apéritif.
Vous nous montrez comment
oui,
on fait?
Oui, bien sûr.
On va faire une démonstration. Alors le verre n'est pas forcément le verre idéal pour le boire.
Non,
mais...
c'est vrai. Mais de toute façon, les anses ont été prévues justement pour le plus grand diamètre.
Alors
peut-être qu'il faut que je...
Oui, je vais lever le verre.
Alors je vais essayer de bien viser. Voilà. Et on voit les petites bulles qui se forment au fond du verre et qui permettent justement d'apporter de l'oxygène. En fait, le principe est que dans le plot hélicoïdal, c'est l'effet Coriolis, où les molécules de vin se détachent lentement.
Elles vont venir s'accrocher, c'est ça?
Elles s'accrochent, pas forcément toutes, hein, forcément, mais c'est justement histoire d'ouvrir les molécules de vin. Et puis, arrivé sur cette cavité, vous avez justement l'effet Venturi, donc c'est un apport d'oxygène qui arrive. Donc, il est fait sous forme de cône pour qu'il soit aéré, mais pas trop. Puisque les molécules, pour même les vignerons, il ne faut pas les brusquer, puisque plus on les brusque et moins il y a de corps en bouche, et moins on arrive à déceler le côté aromatique.
Guillaume ?
Eh bien, encore beaucoup d'inspiration. Moi, j'ai trois choses. Déjà, moi, je suis un ancien prof de physique, donc tout ça, je me dis, c'est génial. On fait de la pédagogie aussi à travers ce sujet. Au passage, voilà, tout le monde peut se reconvertir, hein, que ce soit moi ou vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis en œuvre votre passion. Vous êtes une femme, donc pour les auditrices qui nous écoutent, ben voilà, faut y aller, faut foncer. Et c'était le sujet qui m'inspirait un peu ces trois expériences aussi, et la vôtre particulièrement, c'est le secteur agricole. Moi, j'aime bien à chaque fois rappeler quand même que ce qui a fait chuter la création d'entreprise en France et le nombre de travailleurs indépendants dans notre pays, c'est la chute du nombre de paysans et de travailleurs agricoles. Et là, on a enfin des technologies, des start-up, des entreprises qui s'engagent pour voilà, redévelopper tout ça. Donc, est-ce que j'ai ma question, c'est autour peut-être du côté éco-responsabilité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va faire, qui peut faire vendre Parce que c'est vrai qu'on a vu que vous aviez un créneau sur les cadeaux d'affaires. Mais est-ce que vous souhaitez élargir ça? Et est-ce que vous pensez que ce positionnement est un positionnement qui aujourd'hui réagit bien?
Oui, parce que de toute façon, c'est vrai que nous, ce qu'on recherche aussi, c'est que les gens soient déjà en pleine conscience, c'est-à-dire que quand ils mangent ou quand ils dégustent, qu'ils puissent retrouver tous les arômes qu'ils ont en bouche. Là, de nos jours, c'est vrai qu'on mange n'importe comment, on passe à autre chose, on discute et on n'essaye même pas de se rendre compte de ce qu'on savoure et de ce qu'on déguste.
Il n'y a rien d'équivalent sur le marché ?
S'il y a des aérateurs, hein,
oui, mais
qui sont différents. En tout cas, le concept de poser sur le verre n'existe pas.
Oui, et puis en plus, celui-là, il a moins d'aération que les autres, parce que les autres, ils ne sont peut-être pas forcément faits en France, et forcément, l'aération est beaucoup plus vaste, donc il y a beaucoup moins d'arômes qui se développent.
Alors, ça m'intéresse justement de savoir comment vous avez procédé pour fabriquer en France. Qui est-ce que vous êtes allé démarcher? Comment est-ce que vous avez conçu, finalement, le système? Et avec qui?
Alors, c'est vrai que la partie historique a pris le dessus au départ, et puis ensuite, la partie scientifique, puisque justement, j'ai demandé à... Donc, j'ai fait le dessin en 3D, et puis, j'ai demandé à Polytechnique, à IP Primeca et Ginova. Donc, c'est en fait un Fab Lab interuniversitaire dans Polytechnique de Grenoble et qui permet justement de... Ben voilà, on a conçu justement le prototype là-dessus. Il a fallu un petit peu de temps d'ailleurs.
Tout a été imaginé ici. Est-ce qu'on peut, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut aérer n'importe quel vin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous nous le conseillez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire à partir d'une certaine maturité de vin? Ou est-ce que n'importe quel blanc, n'importe quel rouge peut être carafé?
Alors généralement, ce sont des rouges qui sont tanniques, qui en ont besoin, ou les blancs qui sont très, très minéraux. Et justement, c'est surtout pour les vins de moins de 5 ans. Moi, je le préconise là-dessus. Après, il y en a d'autres qui préfèrent, parce que justement, ça enlève un petit peu la réduction sur certains vins quand ils sont un petit peu trop vieux. Mais je trouve qu'en termes de goût, c'est plus la même chose. Et je dirais que de toute façon, l'aération du vin, c'est vraiment une affaire de goût.
Alors justement, pour ouvrir les bouteilles, Fanny, on garde notre bon vieux tire-bouchon
en cèpe de vigne. Exactement.
Mais il y a quand même pas mal d'innovations autour du vin.
Oui, je commence par vous dire un mot de Wikips qui propose un système ingénieux de capsules de gaz spéciales qu'on fixe sur le bouchon pour garder plus longtemps le vin, jusqu'à 3 semaines quand même, et en conservant bien sûr le goût à la dégustation. On en parle, on est vraiment sur le cœur du sujet. Et pour les professionnels, je pense aussi à Maiwa qui a créé une machine capable de servir le vin au verre pile à la bonne température et immédiatement. Pour un bar, on peut aller jusqu'à 150 verres par heure. On est sur une autre échelle, mais toujours dans l'innovation.
On reste ensemble et on continue à parler vin et innovation aujourd'hui dans La France Bouge.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et vous avez peut-être des questions pour nos invités. C'est le moment de nous appeler 3921 ou alors de nous écrire sur Twitter. Hashtag
Europe 1.
Europe 1, évidemment. Europe 1.
Le salon Vinexpo se termine aujourd'hui, alors pour l'occasion, La France Bouge s'intéresse au vin et à ses innovations. Et comme d'habitude, Raphaël, on peut participer à l'émission
oui.
à n'importe
Venez
quel
maintenant.
Moment. Voilà, avec soit le Twitter avec le hashtag Europe 1, ou alors par téléphone au 39 21, 50 centimes la minute.
Oui, nous sommes avec Arthur Tutin, cofondateur de la WineTech et fondateur de Trocwine, premier site exclusivement dédié à l'échange de bouteilles de vin en ligne. Jean-Jacques Bonnet est aussi avec nous, PDG de l'imprimerie Centre Étiquette, qui développe notamment l'application Ice 2.0 qui permet aux consommateurs de connaître l'histoire de la bouteille de vin et d'en vérifier aussi l'authenticité en scannant l'étiquette. Et puis Christine Garcia, présidente de Vinitem, un aérateur de vin 100% français. Notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Quérou, fondateur de Didaxis et président du Club des Entrepreneurs. À mes côtés, bien sûr, Fanny Rascle. On a évidemment tout un tas de questions à vous poser parce qu'on se rend compte que le champ des possibles est véritablement très large aujourd'hui. Christine Garcia, je vous demandais... Là, aujourd'hui, on est sur un aérateur de vin. On pense vin, mais est-ce qu'on peut le décliner? Est-ce que vous me disiez hors antenne qu'on peut le faire aussi avec du thé? On peut le faire aussi avec des spiritueux?
Oui, tout à fait. Ça enlève le toute la partie. Alors, pour les spiritueux, toute la partie alcool. Et puis, pour le thé, ça enlève l'amertume.
Vous avez d'autres projets qui sont déjà en cours?
Pour l'instant, on essaye déjà de se canaliser là-dessus, un petit peu sur l'aérateur de vin. Mais par la suite, effectivement, pour le thé, pourquoi pas, ça peut être très intéressant.
L'aérateur de vin, vous en avez vendu combien aujourd'hui? Vous êtes en plein développement?
Oui, non. En fait, on avait commencé peut-être en 2015, mais le temps que tout se fasse, la commercialisation s'est faite en fin 2018, lors du salon Made in France. Donc là, on a commencé, puis on en a vendu depuis à peu près 780 depuis novembre 2018.
On parlait, Jean-Jacques Bonnet, tout à l'heure de vos étiquettes et on se disait que c'était aussi un argument de vente supplémentaire pour certains pays qui seraient peut-être un petit peu frileux. Oui. Avoir cette authentification, c'est quelque chose de plus finalement pour les vignerons. Est-ce qu'ils en ont conscience?
Pas jusque-là. Jusque-là, le vin se vendait bien, il n'y avait pas trop de problèmes à l'export, donc on n'y pense pas. On ne pense pas à mettre en avant son savoir-faire et on se le garde un petit peu comme un bijou, il est à soi. Mais plus en plus, les vignerons font des vins de terroir, des vins de parcelles. Et là, ils commencent à échanger sur leur savoir-faire. Donc là, c'est l'occasion justement avec cette application de transmettre ce savoir. Et puis à l'export, il faut savoir aussi que aussi bien en Asie que aux États-Unis ou ailleurs, le savoir-faire français est recherché. Et si on le voit, si on a l'image, on est encore plus crédible. Et les gens veulent l'acheter, les gens veulent le montrer, et les gens transmettent notre savoir-faire. Donc c'est ça aussi, c'est une transition et transmettre notre patrimoine.
Effectivement, c'est important de le signaler. Et vous parliez des chiffres, vous parliez de l'export. Fanny, justement, c'est difficile, on l'a dit, notamment en 2019, ça a été une très bonne année, mais là, ça s'annonce un peu plus compliqué.
Oui, et on ne parle pas ici des conditions climatiques, mais bien de politique et de diplomatie. Tout à l'heure, on le voyait avec Maud Descamps dans le journal. Deux raisons de s'inquiéter principales pour les producteurs français, les taxes de 25% imposées par l'administration Trump, et puis le coronavirus qui risque de ralentir l'économie chinoise alors que c'est un débouché important pour les producteurs français. Et puis une troisième menace dont on n'a pas parlé encore, c'est le Brexit. Alors pour l'instant, les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté ces derniers mois, mais c'est un leurre parce que c'est plutôt pour faire des stocks. Il y a là aussi une grande incertitude sur les futurs droits de douane qui vont sans doute pénaliser une fois de plus les vins français.
Oui, malgré tout, le vin reste un poids lourd pour l'économie française.
Oui, est-ce que vous savez que les exportations de vin et de spiritueux sont le deuxième contributeur à la balance commerciale derrière l'aéronautique, mais devant le secteur des cosmétiques, par exemple. Côté emploi, je peux vous dire que le secteur viticole génère environ 500 000 emplois, directs et indirects. Et puis la France est championne du monde, alors pas en volume de vin, c'est l'Italie qui est devant, mais bien en valeur à l'exportation. Là, les vins français sont imbattables.
Oui, c'est vrai. On est imbattable dans beaucoup de choses, d'ailleurs. Hein. De temps en temps, il faut savoir faire cocorico. Moi, je voudrais savoir, Arthur Tutin, sur Trocwine, on a des Français essentiellement qui échangent ou on peut aller finalement un petit peu n'importe où sur la planète comme ça, échanger les bouteilles?
Non, c'est ce qu'on aimerait faire par la suite. C'est uniquement des Français et des Belges pour l'instant. C'est tout simplement aussi une... je pense que c'est une un point faible de notre plateforme, c'est que... qui vient du vin par ailleurs, c'est qu'on ne peut pas envoyer facilement. Si vous voulez, la distribution de vin est relativement compliquée. Donc, quand vous avez un trocker qui n'est pas dans votre région, c'est très compliqué d'envoyer votre bouteille de vin, déjà pour être sûr de son authenticité et aussi de savoir si elle n'a pas trop voyagé. Et on sait ce que la Poste fait avec nos colis, c'est un peu compliqué.
Voilà. Le vin est fragile. Vous arrivez à tracer toutes les bouteilles, à vous les authentifier, ou est-ce qu'il y a un gage de confiance qui s'établit avec les propriétaires?
La confiance, c'est un peu le pilier de la consommation collaborative, hein, que ce soit Blablacar ou Trocwine, c'est exactement la même chose. Après, il y a un système de notes aussi, donc on va noter les trockers, les bouteilles sont notées, on peut mettre un maximum de photos, donc si vous voulez en mettre 10, 15, vous pouvez ajouter un maximum de photos. Donc nous, on vient modérer chaque bouteille, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bouteille qui peut être mise en ligne sans notre autorisation, donc c'est déjà un grand pas. Et puis après, pour la suite, non, la confiance règne.
Combien d'utilisateurs aujourd'hui?
Alors 2000 utilisateurs à travers la France, c'est 5000 références, ce qui est énorme si on compare à un caviste ou même à un supermarché, des références en supermarché. Et on a 2000 trocs à peu près par an.
Et vous êtes perçu comment par justement ceux qui vendent du vin?
Je pense qu'on est perçu un peu pour des rigolos quand même, voilà. Parce qu'en fait, mais c'était une volonté pour nous, si vous voulez, d'enlever toute la valeur financière du vin pour revenir en fait à l'amour du breuvage, à l'échange qui fait partie encore une fois de son statut.
Alors la suite, c'est quoi? L'internationalisation?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours pensé à la Californie pour ça, qui est quand même un état, un pays du vin.
C'était avant Trump, ça.
C'était avant Trump, oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure. On subit, même à notre petite taille, on subit quand même cette taxe. Donc c'est impressionnant.
Même question pour vous, Jean-Jacques Bonnet. La suite, c'est quoi? Après vos étiquettes qui nous parlent finalement,
après,
qui nous racontent
tellement de choses. C'est surtout la sécurité.
Ouais.
Voilà, c'est les embellir, c'est leur donner encore plus de cachet. Et puis, c'est augmenter la sécurité de l'étiquette.
Oui. Vous travaillez aujourd'hui avec combien de viticulteurs?
À peu près 500.
500, donc ouais, ça laisse encore de belles perspectives.
Oui, c'est ça. Ouais. On fait attention à l'export. C'est 48% quand même de notre travail.
De votre travail,
ouais,
48%.
Ouais, c'est 48%.
Même question pour vous, la suite, Christine Garcia.
La suite, ça sera de toute façon la partie internationale. Hein. Cette année, ça sera essentiellement la France et puis après l'international.
Fanny, on va regarder nos vignerons français. On vient de le dire, ils doivent s'adapter. C'est vrai qu'on ne boit pas le vin de la même manière maintenant qu'il y a 10 ans ou 5 ans.
Oui, alors on a oublié le vin à la cantine qui a été interdit en 1956, je tiens à le rappeler. Plus près de nous, on a constaté ces dernières années une disparition progressive du vin à table, du vin de tous les jours pour aller vers un vin plaisir. Aujourd'hui, on le préfère à l'apéritif et plutôt blanc ou rosé du coup. Donc c'est vrai que pour les producteurs, ils doivent vraiment s'adapter. Et ce n'est pas une bonne nouvelle forcément pour les vins de Bordeaux qui sont produits à 85% en rouge. Dernière tendance, les vins bio ou produits en biodynamie. Là aussi, ça oblige vraiment tout le secteur à se réinventer, à se réorienter.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler innovation et vin aujourd'hui dans La France Bouge.
Merci Raphaël.
Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
À 13h50, il est temps, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est les bonbons Barnier. Bonjour Pascal Zindel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes le président de cette confiserie qui a vu le jour en 1885. Ce sont les Barnier qui ont lancé près de Rouen cette confiserie. Ils fabriquent des bonbons feuilletés, des sucettes au départ.
Notre spécialité, ce sont les bonbons traditionnels fabriqués pour la majeure partie à la main. Et donc, l'histoire a commencé avec des bonbons qui étaient imprimés avec des cylindres, comme on fait les biscuits aussi, qui était la technique qu'on employait au 19e siècle. Et puis, le 20e siècle a apporté de nouvelles recettes, de nouvelles possibilités, notamment les sucettes qui constituent aujourd'hui le produit phare de la maison Barnier.
Alors, ça s'appelle Barnier, c'est pour ça que j'ai parlé des Barnier, mais au départ, c'est Eugène Calais qui est grossiste à Nantes, qui rachète, puis qui va s'associer aussi à Raymond Renoux, qui va devenir son gendre. Ça a changé de main finalement, ça a changé de famille. Hein. On a les Barnier au départ.
C'est,
et puis,
c'est resté 15 ans entre les mains de Marius et Pierre Barnier, qui avaient créé la société, mais qui étaient déjà assez âgés quand ils l'ont créé. Et ils ont transmis leur entreprise en 1900 à Eugène Calais, qui était effectivement un confiseur d'origine nantaise, qui est venu s'installer à Rouen. Et c'est la famille d'Eugène Calais qui, sur 4 générations, a dirigé l'entreprise jusqu'en 2017, année où j'ai acheté l'entreprise aux descendants d'Eugène Calais.
Alors effectivement, les fameux frères Renoux, qui sont connus dans la région. Entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important. Vous avez parlé de Rouen. La confiserie était installée à Rouen, mais en 67, elle a déménagé parce que la ville les a expropriés. Et c'est comme ça qu'est née l'usine à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Effectivement, les bonbons Barnier étaient une usine de centre-ville jusqu'au milieu des années 60. Et tout Rouen a été réaménagé. La rive gauche de Rouen a été réaménagée. Parce qu'en 1945, ça avait été, enfin 44, ça avait été très largement bombardé et détruit. Donc dans les années 60, il y a eu des grands réaménagements, des grands projets. Aujourd'hui, l'ancienne usine qui était en centre-ville est devenue le siège de la sécurité sociale pour la région Normandie. Et l'usine qui est actuellement l'usine de bonbons Barnier, a été construite dans ce qui était à l'époque une forêt, la forêt du Madrier, qui est devenue la technopole de Rouen. Donc, on fabrique des bonbons au milieu d'une technopole aujourd'hui entre les écoles d'ingénieurs et les start-up informatiques.
Oui.
Donc, c'est un peu paradoxal, mais on était les premiers à s'installer là.
Pas tant que ça, parce qu'il faut être innovant aussi pour savoir garder les traditions et les savoir-faire. C'était d'ailleurs important pour les frères Renoux, hein, quand ils vous ont vu arriver. Ils avaient énormément de dossiers. Ils avaient la volonté de choisir quelqu'un, de transmettre à quelqu'un qui pourrait garder à la fois les salariés et qui aussi garderait l'âme des bonbons.
Alors, garder l'âme et donner un avenir à l'entreprise. Donc, ce qui a motivé mon choix d'acheter cette entreprise, je le pense aussi en partie leur choix à eux de me la céder à moi plutôt qu'à quiconque d'autre, c'était cette idée que la tradition, l'histoire, était la base du futur de cette entreprise. Ce qu'on vend et la raison pour laquelle on se développe si bien, notamment à l'export et à l'export lointain,
en Chine, c'est
que,
notamment.
Voilà, c'est qu'on vend une certaine idée de la France, mais qu'on interprète cette idée de la tradition de la confiserie française avec les moyens du 21e siècle.
Vous avez des produits qui sont sans gélatine, avec des arômes naturels. Les colorants sont végétaux. On est vraiment dans la tradition du bonbon d'antan.
En fait, c'est ce qu'on appelle de l'innovation silencieuse. C'est-à-dire que si vous regardez nos bonbons traditionnels, nos bonbons à la violette ou à la rose, ils ont le même aspect qu'ils auraient eu il y a 100 ans. En revanche, on utilise tous les progrès qui sont à notre disposition aujourd'hui pour simplifier les recettes. Plus une recette est courte, meilleure elle sera. Elle peut être plus compliquée à produire, mais elle sera meilleure et plus saine. Donc effectivement, un certain nombre de choses qui ne se voient pas ont été faites depuis 2-3 ans pour améliorer les recettes, les rendre plus naturelles, plus simples et meilleures. Parce que après tout, dans notre métier, ce qui compte, c'est qu'on ait du plaisir.
Et vous en parlez avec plaisir et ça s'entend. Vous avez eu un vrai coup de cœur pour cette maison-là.
Ben, écoutez, c'est une expérience.
Après une carrière qui n'avait rien à voir.
Qui n'avait absolument rien à voir, puisque je suis passé d'un métier strictement de col blanc, de conseil, avec des grandes entreprises à l'international, à une PME, avec une usine et un métier qui est très largement manuel. Mais ça, c'est, j'allais dire, ce qui est génial quand on dirige une entreprise de bonbons, c'est que ça donne le sourire à tout le monde. Donc, je n'ai jamais eu autant de gens qui se sont intéressés à ce que je faisais dans la vie que depuis que j'ai repris cette entreprise-là. Donc, si ça n'était que pour ça, j'aurais déjà gagné quelque chose.
Guillaume Carreau, notre coach.
Vous adoucissez notre quotidien, à nous, entrepreneurs, et à tous les auditeurs, avec toutes ces sucreries. Non, ce qui est intéressant, c'est votre parcours, effectivement, de repreneur, après, effectivement, une autre carrière. Contrairement à beaucoup de startups qu'on a accueillies, bah voilà, vous, c'est une seconde vie aussi, c'est de redonner du sens à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un très bon résultat que de réunir tout ça. J'imagine que ça se trouve, vous n'étiez même pas de Rouen.
Absolument pas. Voilà. D'ailleurs, c'est pas terrible pour l'empreinte carbone, mais j'habite à Paris et je vais à Rouen chaque jour.
Non,
heureusement,
ça,
j'ai la 14 qui me permet d'y aller directement.
Non, mais
et
vous allez investir, vous allez racheter une petite forêt, quelque chose comme ça, vous êtes tranquille pour plusieurs années.
Le best-seller, il est là, c'est la sucette, les sucettes aux fruits Barnier dans leur emballage. Ça fait fureur, notamment en Chine, on en parlait tout à l'heure.
Ça fait fureur en Chine parce que c'est perçu par, je dirais, la nouvelle classe moyenne et en particulier les jeunes comme l'élément le plus abordable du luxe à la française. C'est-à-dire qu'en achetant une sucette Barnier, qui vaut très cher en Chine comparativement à ce qu'elle vaut en France, puisqu'elle vaudra là-bas l'équivalent de 1 euro, alors tenant compte des parités de pouvoir d'achat entre les deux pays, c'est cher pour une sucette. Mais c'est acheter un petit bout de France et un petit bout du luxe à la française. Donc c'est le moins onéreux des produits de luxe français. Et c'est pour ça que les gens l'apprécient. Et puis il y a l'idée que ça marie la tradition, le savoir-faire et aussi en termes alimentaires en Chine, c'est très important, la sécurité.
C'est l'entreprise qui va bien, les bonbons Barnier. Merci Pascal Zindel d'être venu nous raconter cette très belle histoire. On était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui dans La France Bouge. Merci à Guillaume Carreau qui était notre coach.
Merci.
Fanny, merci aussi d'avoir été avec nous pendant
plaisir.
Ces 3 jours. On vous accueille quand vous voulez. Justine, nous, on se retrouve dès demain midi sur Europe 1.